écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, le Canu Info du lundi 14 avril 2014. Un petit peu de retard, le temps de la mise en place technique, mais nous y voilà avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex téléphonique, et nous allons aborder l'actualité internationale tout d'abord. On a pas mal de sujets, pas de grands sujets aujourd'hui, on peut peut-être quand même ouvrir sur celui qui fait la une des médias, mais plutôt pour le minimiser que pour l'accentuer. C'est l'Ukraine, bien sûr, où tout le monde se gausse de ce qui s'y passe. Alors effectivement, comme on l'avait vu venir, près de la frontière Est, il y a un certain nombre d'activistes qui, sans être des foules, mais des gens efficaces, décidés, qui essaient de prendre d'assaut, qui arrivent, même des commissariats, enfin qui essaient de prendre des bâtiments publics et qui réclament à tort et à cri différentes choses, dont un référendum pour leur région, pour leur avenir. Côté Kiev et gouvernement central, on fait pas mal de pataquès en disant qu'on met des ultimatums, l'ultimatum est passé, on n'a rien fait, on n'a pas envie de faire couler le sang. Des deux côtés, les deux s'accusent réciproquement de coups d'État et de positions non régulières, quoi. Alors, les Russes sont-ils effectivement en train d'envahir cette zone-là? C'est pas évident. C'est assez confus à l'heure qu'il est, si on cherche vraiment à comprendre ce qui se passe. Est-ce que, effectivement, les gens de cette région, les gens russophones, se sentent floués par ce gouvernement un peu constitué à l'arraché et qui n'est pour le moment pas élu par la population et décident de prendre leur destin en main face à cette pression-là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que géopolitiquement, cette région est de l'Ukraine est la région la plus riche en matière à la fois agricole et industrielle. Et que s'il devait y avoir une scission, elle ne ferait pas défaut, elle ne serait pas au préjudice des habitants de ces régions-là, mais plutôt de l'ouest de l'Ukraine. Et on comprend aussi que si la partie ouest de l'Ukraine ne veut surtout pas lâcher cette zone est, c'est bien parce que elle perdrait toute l'activité économique de laquelle elle peut tirer des devises, puisque l'Ukraine exporte, cinquième exportateur mondial en matière agricole, quatrième grand gisement d'Europe de charbon, du fer, du manganèse, des aciéries. Donc tout ça fait que c'est une région riche qui peut très bien se passer du reste de l'Ukraine. On a connu ce genre de tendance sécessionniste aussi en Italie, dans des conditions différentes, mais autour d'une économie qui est, disons, disparate d'une région à l'autre. Alors voilà, ce soir, pas mal de tensions, mais pas rien d'irrémédiable à l'heure qu'il est, si ce n'est qu'il y a une bonne douzaine de villes dans lesquelles des activistes s'agitent et réclament une reconnaissance de leur autonomie régionale. Mais le fédéralisme, justement, le gouvernement de Kiev n'en veut pas. Voilà, tout ça est un petit peu confus. Je ne sais pas si toi, Robert, tu en as une vision un peu plus claire. On peut dire aussi qu'il y a eu une 14e réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande des Russes sur la question de l'Ukraine et que il n'en est pas sorti grand-chose. Comme côté occidental, les Européens font une pression en menaçant de nouvelles sanctions, mais on sait qu'ils ne sont pas complètement impartiaux dans cette affaire face à la situation. Robert.
Oui, je voulais simplement ajouter la déclaration qui un peu n'est pas celle qu'on entend à Bruxelles et même officiellement à Paris, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, donc au titre de co-président du parti de gauche, mais aussi co-président du front de gauche, et qui, c'est dans une émission de la 5, il a passé quelques minutes à discuter avec toujours beaucoup de véhémence avec les journalistes. Et puis, simplement, à propos de l'Ukraine, il a dit, mais en fait, on est passé depuis, enfin, au départ, sur la place Maïdan de Kiev, c'était une révolution qui contenait des éléments de lutte de classe, puisque c'était pour s'en prendre à la richesse, aux riches, aux oligarques, aux bourgeois. Et puis finalement, ça a été dénaturé au fil des semaines, ça a été repris en main par ces mêmes forces conservatrices qui, pour pouvoir prendre les choses en main, se sont appuyées sur les milices militairement organisées. Et donc, c'est devenu, dit Jean-Luc Mélenchon, c'était devenu une lutte entre gens parlant le russe et gens parlant l'ukrainien. La dérive était totale et on n'est plus du tout dans une révolution comme ça a pu être dit, que ça continue de l'être si les mots ont un sens. Voilà, effectivement, sur le plan de la situation, eh bien, c'est ce que tu as dit et c'est ce qu'on dit presque nous chaque semaine à Canu, c'est que effectivement la région de Donbass a collé à la Russie, industriellement tourné à l'est, parce que effectivement le débouché pour l'Ukraine était à l'est, dans un rapport avec la Russie, et que cette histoire d'avoir aligné le prix du gaz sur le prix mondial, eh bien effectivement fait perdre à cette industrie le privilège qui était celui dont bénéficiait l'Ukraine, d'où cette volonté de dire, eh bien il faut qu'ici on ait un statut particulier et donc qu'on soit une région détachée, fédérée mais détachée, qui puisse avoir une autonomie économique et financière.
Voilà, enfin, en tous les cas, il semble que sur le terrain, la situation soit beaucoup moins dramatique que celle qui nous est mise en avant par les médias occidentaux, si vous regardez, quelle que soit la chaîne de télé. Donc, on va aussi parler d'autres sujets bien intéressants. Ben, peut-être un mot sur Cuba, c'est pas qu'il s'est passé quelque chose de... Si, quand même, puisque c'est la première fois depuis 1983 qu'un ministre des Affaires étrangères, depuis Chesson, donc, se rendait à Cuba en visite officielle, c'est Fabius, bien sûr, qui a été rencontré Raúl Castro pour relancer un petit peu la coopération économique entre la France et Cuba et essayer de sortir de cette situation dans laquelle on a enfermé l'île depuis de nombreuses années. Alors la France n'est pas actuellement un gros partenaire économique, 280 millions d'euros, le premier commerçant entre guillemets étant Pernod qui fabrique là-bas du rhum qu'il vend dans le monde entier. Les partenaires commerciaux de Cuba étant, on pourrait s'en douter, Venezuela en tête, mais en deuxième, les Américains, qui, bien que boycottant beaucoup de choses cubaines, sont quand même des partenaires importants. Voilà, alors qu'en sortira-t-il ? Un rapprochement sans doute commercial sur le plan de la fameuse question des droits de l'homme et de l'hégémonie du régime politique. On sait que c'est un sujet qui fait polémique parce que, bien sûr, il y a quelques opposants emprisonnés comme ailleurs, j'ai envie de dire, mais en même temps, le régime cubain a su maintenir une certaine et égalité sociale, même s'il y a quelques problèmes, et s'il est à bout de souffle économiquement face à la situation qu'on lui a fait, il n'est pas sûr que la liberté il soit si bafoué qu'on veut nous le faire croire à longueur d'antenne.
Oui, Fabius, qui faisait partie effectivement de ces sociaux-démocrates européens et notamment français qui n'ont pas arrêté de dénoncer Cuba comme une dictature et se sont toujours efforcés, y compris dans les décisions qui étaient prises en Europe, de pratiquer, sans le dire, une sorte de boycott, comme le font les Américains, un boycott que les Américains ont par contre allégé et pour cause, parce qu'une partie des Cubains maintenant sont en Floride et que les relations sont de type différent. On aurait peut-être aimé que Fabius fasse un pas de plus et sollicite de son ami américain eh bien, la fin de ce boycott qui, visiblement, est obsolète.
Voilà. Autre sujet, tu veux démarrer sur quelque chose ou je...
On aimerait, peut-être toi tu vas le faire, mais moi j'ai malheureusement, il aurait fallu que j'achète une pile de journaux, je ne sais pas où, où trouver l'information. Je voudrais parler d'une manière à la fois importante de l'Algérie et de cette élection présidentielle qui va déboucher jeudi, avec les résultats vendredi, sur la troisième réélection, troisième mandat pour Bouteflika et pour un président qui au départ s'était juré de ne jamais comme ça s'installer à vie au pouvoir et qui maintenant veut y rester malgré son état de santé très déplorable. Enfin, aucun pays actuellement ne pourrait se permettre de dire qu'il pratique une élection présidentielle dans ces conditions-là. Eh bien, l'Algérie, hélas, se distingue malheureusement dans ce domaine. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est voir et trouver, c'est les opposants. Bon, je crois qu'on parle de l'ancien ministre Benflis, qui est, semble-t-il, celui qui va faire le meilleur score derrière Bouteflika, dont on nous annonce déjà la réélection sans problème. Mais quelles sont les propositions, en dehors de dire et répéter ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, répéter qu'il faut absolument combattre la corruption. Mais bon, combattre la corruption, ça ne fait pas un programme. Bon, ça, si on a un bon programme et bien structuré sur le plan financier, économique et de justice sociale, eh bien la corruption, elle va peu à peu reculer. Et malheureusement, il ne semble pas que les candidats sur ce terrain-là fasse beaucoup d'efforts. Alors peut-être la candidature de Louisa, qui est Louisette ou Louisa, je ne sais pas, on appelle toujours par son prénom, c'est la candidate, elle est députée, candidate trotskiste, Parti des travailleurs algériens, et qui est candidate à la présidentielle, et qui va faire quelques pourcents, comme si bon, elle allait sauver l'honneur de la classe ouvrière et de la et du monde populaire de l'Algérie. Mais je ne sais pas, toi, si tu as peut-être plus de choses sur le contenu même de la campagne. Oui.
Pas énormément, mais enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bon, visiblement, ils vont élire un mort-vivant, quoi, parce que faire une campagne sans apparaître, alors on peut dire qu'ils traitent ça par le mépris et qu'ils voient de haut, mais en fait, il semble que... Et en plus, il a toutes les chances d'être élu, parce qu'il représente, il n'est pas tout seul, et les gens ont compris ça, que c'est un système Bouteflika. Et soit ils ont envie de le reconduire, soit ils n'ont pas envie de le reconduire. Il semble qu'ils aient envie de le reconduire. En plus, bon, il y a peut-être du bourrage d'urne organisé qui facilitera la reconduction. Mais c'est vrai que ce qu'il joue beaucoup, c'est le fait qu'il a contenu le terrorisme du GIA, des choses comme ça, qui maintient un certain ordre, qui n'a pas que des aspects positifs dans la vie sociale. Mais il y a une partie de la population, et quand on a pu voir des interviews ici et là, de gens qui votent pour cette continuité un peu curieuse, quoi. Alors, face à lui, bon, quelques candidats, dont Benfis, Ali Benfis, qui fut son premier ministre, qui un discours, quand on l'a pu l'entendre dans des entretiens, assez démagogique, puisqu'il dit qu'il va rétablir la liberté, la libre entreprise, enfin, des tas de choses qui visiblement, ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et moi, j'ai un peu l'impression que si jamais, ou quand il arrivera au pouvoir, s'il n'y arrive pas cette fois, il va se retrouver dans la situation de mener l'Algérie comme elle est menée depuis 30 ans, c'est-à-dire d'une main de fer, avec pas autant de liberté qu'il en promet dans son discours électoral. Mais ça, on est habitué en France aussi à avoir des discours électoraux très séduisants et une pratique derrière qui n'a plus grand-chose à voir. Donc, je pense que même si Benfis passe, il va reconduire un système à l'algérienne qui ne va pas être très différent de celui qu'a mis en place Bouteflika.
C'est-à-dire que si Benfis passe, les tensions entre les différents apparatchiks, soit ceux de l'armée, soit ceux de la police secrète, soit ceux des renseignements généraux, ils sont vraiment à couteau tiré en ce moment, et seul, effectivement, Bouteflika fait que ça n'explose pas par des situations qui pourraient d'ailleurs, en certains, peut-être retourner à un genre de coup d'État par des groupes soit de l'armée, soit de la police pour donner une suite à cette situation. Alors, ce que je voyais aujourd'hui, c'est le directeur de campagne de Bouteflika. Alors, à la limite, on pourrait dire que ce directeur de campagne, c'est le dauphin. Alors, ça, c'est l'âle, c'est l'ancien, c'était le dernier premier ministre, hein, et qui donc a démissionné de ce poste pour assurer la campagne de Bouteflika. Donc, est-ce qu'il est simplement le clone de Bouteflika dans l'impossibilité effectivement de mener sa campagne, et à partir de là, est-ce que le clone va prendre la place de son maître? Ça peut être aussi une hypothèse que l'on met en avant, sauf que n'est pas très populaire, n'est pas très connu, à la différence de Benfis, qui l'est beaucoup plus, parce que Benfis en plus en est, je crois, lui aussi à sa troisième campagne électorale. Je voyais c'est une dépêche AFP là ce soir, hein, où effectivement c'est lui-même, je crois que c'est Célal qui explique longuement que, en fait, contrairement à ce qu'on dit partout, et notamment à l'étranger, la lutte contre la corruption est vraiment fortement engagée. Il donne le chiffre de 2000 affaires pour corruption qui sont passées devant les tribunaux. Alors, on ne connaît pas les résultats. On connaît effectivement, on avait appris que ici et là, un ministre avait démissionné. On pourrait dire un homme d'affaires mafieux, voyant que ça chauffait au cours d'un voyage, eh bien, il est parti en voyage et puis il n'est pas revenu. Bon, il y a un certain nombre de choses comme ça, mais des grands procès de ces gens qui sont les grands corrupteurs et qui ont encaissé pour leur propre compte des milliards provenant de la rente pétrolière qui elle a toujours été à un bon niveau, la rente pétrolière, puisque le pétrole, depuis 15 ans, n'a pratiquement pas cessé de monter. Les procès, donc, qui touchent aussi bien tout ce petit monde de l'énergie que du bâtiment en travaux publics, bon, on va dire que c'est classique partout, mais là, ça a une telle ampleur que finalement, même sur une longue... un long message. Célal prétend que ça y est, l'Algérie est bien entrée dans une phase anticorruption. En fait, on a quand même beaucoup de mal à le croire.
En tous les cas, donc, ils voteront jeudi. En France, les votes ont déjà commencé. Donc, il y a 800 000 Algériens qui votent en France, hein, et en tout, 26 millions d'électeurs. Mais on peut penser que l'espérance de vie de Bouteflika étant de toute manière sûrement assez brève, tous ces gens seront amenés à revoter avant l'échéance de, je ne sais pas combien, 6 ans le mandat, je crois, là-bas. M'étonnerait qu'il aille au bout de ce mandat-là. Voilà, donc à suivre. Alors, autre sujet, proche de l'actualité, il faut dire quelques mots du Nigeria quand même, où il s'est passé deux choses graves, importantes, ces derniers jours, à savoir ce week-end, donc Boko Haram, qui attaque des villages dans le nord-est avec une centaine de gens, bon, des destructions, et une centaine de personnes tuées. Et puis ce matin, sur un parking d'autobus près de la capitale Abuja, deux explosions, semble-t-il, des kamikazes. Et là, c'est encore une centaine de morts qui sont, et puis beaucoup de blessés, bien sûr. Pensez là, les bus à l'heure de pointe, ce que ça peut donner. Donc, un pouvoir qui n'arrive pas à s'imposer, qui prétend qu'il tient la situation en main, mais dont on voit bien que sur à peu près 15 à 20% du pays, il n'a pas la main, et qui même dans sa capitale doit subir des attaques qui sont redoutables. Donc le Nigeria, qui est un pays très grand, très peuplé, dans une certaine tourmente dont on ne voit pas bien l'aboutissement pour le moment. Voilà, autre sujet, Robert.
Peut-être parler de la Libye. La Libye dont l'ouverture du procès des anciens dirigeants de l'époque de Kadhafi devait s'ouvrir aujourd'hui, après avoir déjà été reporté une première fois, et qui est reporté une seconde fois, parce que sur les 37 accusés qui étaient appelés à comparaître, 23 étaient présents, non pas que les autres sont disparus, mais simplement la plupart sont dans des prisons qui sont gérées par des miliciens qui ne reconnaissent pas l'autorité de Tripoli et qui donc ont décidé de ne pas livrer leurs prisonniers à ce tribunal, qui est quand même un tribunal d'exception et un tribunal dont les organismes internationaux de droits de l'homme craignent le pire, à savoir des condamnations à mort avec des exécutions dans la foulée, notamment concernant des personnages comme Senoussi, qui était le directeur des services secrets, qui a été livré par je ne sais plus la Mauritanie ou le Tchad, et puis d'autres comme l'ancien chef du gouvernement. Et les deux fils à Kadhafi, dont l'un était présenté comme le successeur de son père, Saïf, dont d'ailleurs la Cour pénale internationale demande que Saïf lui soit envoyé, donc à La Haye, ce que refuse la milice qui le détient, et qui doit être aussi donc en comparution, mais on n'ose pas le déplacer de peur qu'en cours de route il soit assassiné, soit enlevé par une autre milice, soit bon, des choses comme ça. Donc il est question de monter une vidéoconférence où, depuis la prison à Zenten où il est, eh bien, il participerait à ce folklore de parodie de justice. Alors, quand on voit les actes d'accusation, c'est comme si c'était vraiment des bandits de grand chemin. Ils ont pillé, ils ont violé, ils ont... Ben, ça, c'est ce dont on charge tous les dirigeants qu'on arrête dans n'importe quel pays que ce soit et qu'on ne veut pas, auquel on ne veut pas faire un procès politique. Donc on les colle de toutes les infamies qui couvrent un procès de droit commun. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Ça va, sauf quand même qu'il est dit au début de l'acte d'accusation que effectivement On les accuse d'avoir réprimé la révolte populaire à Benghazi. Puis c'est tout, c'est une phrase. Puis après, alors, on défile toute une série donc d'actes dans l'acte d'accusation d'éléments qui renvoient à tout ce qu'il peut y avoir de plus vil quand on veut juger un droit commun et qu'on veut essayer de le condamner.
Il faut reconnaître que le contexte politique est extrêmement compliqué. Il n'y a pas vraiment d'appareil d'État. Il y a un appareil d'État, mais il n'a pas de pouvoir sur grand-chose. Il y a des petits royaumes un peu partout, et chacun s'arroge des directions de région. Alors aller là-dedans, faire l'unanimité autour d'une condamnation de l'ancien système, tant plus que la quasi-totalité des gens qui ont repris du poil de la bête et qui dirigent soit des milices, soit des zones du pays, étaient impliqués dans l'ancien régime, donc n'ont pas forcément le souhait qu'on fouille trop dans leur passé pour condamner ce qui s'est passé sous Kadhafi, quoi. Ben, donc tout ça mélangé fait que ce procès aura bien du mal, à moins qu'une justice expéditive, en plus effectivement les garanties des accusés, garanties judiciaires, avocats et autres ne sont pas du tout en place, à moins qu'on veuille donc faire une justice expéditive et symbolique et qu'on condamne tous ces gens, même s'ils le méritent ou qu'ils ne le méritent pas. Sans trop vouloir aller au fond des choses, c'est ce qu'on peut penser qui va finir par arriver. Quoi.
Oui, parce que à la différence de l'Irak, par exemple, où c'était finalement pendant c'était les Américains eux-mêmes qui gardaient Hussein et qui gardaient les grands dirigeants irakiens. Bon, jusqu'au moment où finalement, par un tour de passe-passe, avec leur, sans doute avec leur complicité des Américains, on la soustrait pour aller le pendre. Donc, en Libye, il n'y a personne. Donc, ce sont toutes ces miliciens qui, comme effectivement souvent, certains de ces miliciens ont un temps collaboré aussi sous le kadhafisme. Donc, ils se refont une vertu. Et pour se faire une vertu, il faut qu'ils fassent du zèle. Donc, le mieux, ce serait d'éliminer le plus possible de gens qu'ils ont pu éventuellement côtoyer dans cette période.
Voilà, on va venir un petit peu en Europe. Il y a un certain nombre d'informations sur l'Europe. Il y a la BCE qui a baissé le taux de l'euro. Alors, ça a été diversement apprécié. C'est Draghi, hein, le président, qui vient de faire cette opération. Il y en a qui applaudissent des deux mains, comme Sapin. Il y a la bourse d'Asie qui fait chuter l'euro encore plus. Bon, il est vrai qu'il y a un problème pour les produits européens avec un euro fort face aux Américains puis aux autres monnaies, et qu'à un point que la déflation nous guette. Donc, une manière d'essayer de résoudre ce problème, c'est peut-être d'abaisser un petit peu le taux de l'euro, et c'est ce qui serait en train de se faire. Ça nous changera pas forcément complètement la vie, mais c'est plutôt une mesure qui va dans le bon sens. Et puis, on va dire un mot de l'Écosse, qui dans 6 mois prépare son référendum d'indépendance avec un congrès qui était du Parti national écossais qui se tenait ces 2 jours derniers, là. Et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, ça ne fait pas l'affaire des Anglais qui pensent qu'il ne faut surtout pas perdre l'Écosse dans le Royaume-Uni, entre autres parce qu'ils y ont des intérêts militaires avec les bases de sous-marins nucléaires et autres. Ça ne fait pas l'affaire des marchands de whisky, ils préfèrent eux aussi, société anglaise, garder la main. Mais pire que ça, ça ne plaît pas du tout non plus ni aux Espagnols ni aux Belges, parce que ces pays européens-là se disent que si jamais les Écossais avaient l'idée de vouloir prendre leur autonomie, ça pourrait donner des idées à d'autres chez eux. Les Catalans en Espagne, les Belges, on sait les problèmes qu'ils ont avec entre Wallons et Flamands. Et puis les Espagnols menaçant, bien sûr, si l'Écosse devenait indépendante, de refuser quasiment son entrée dans l'Europe, en tous les cas de lui faire repasser un examen qui pourrait prendre X années, comme on le fait pour d'autres nouveaux venus. Voilà, donc une certaine instabilité à la fois autour du Royaume-Uni, mais aussi qui se répercute sur d'autres pays européens. Et on ne les a peut-être pas tous cités. On peut dire un mot des élections européennes aussi, qui approchent finalement à grands pas, 25 mai, hein, 74 postes pour les Français à répartir. Et là, je crois qu'aux Européennes, c'est à la proportionnelle. Donc, même les petits partis ont leur chance. Bien sûr, les gros partis visent des grosses représentations. Et on va voir, en tous les cas, la France, l'offre est diversifiée. UMP, PS, FN, Vert, Front de Gauche partira aussi. Modem et UDI, ce qui va diviser un peu la droite. Tout le monde y va, quoi, avec ces listes européennes. C'est une représentation proportionnelle par région, hein, Robert, je pense. Hein.
Oui, oui. Et pour ce qui sera de la France, c'est avec la définition de 11 régions. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui sont regroupées. D'ailleurs, ça préfigure peut-être ce que veut faire Valls plus tard. De toute façon, il ne peut pas le faire sans un congrès de l'ensemble des parlementaires, mais réduire le nombre de régions. Mais là, déjà, ça s'applique. Là. Il y a neuf régions. La France est divisée en 9 régions dans le cadre de ce vote européen.
Mmh. 9 régions, ça fait à peu près 8 députés par région. Il n'y en aura pas pour tout le monde, là.
Oui, tu as dit combien de chiffres ?
74 en tout.
C'est pas divisible par 9, mais c'est sans doute pondéré par la
9 fois 8, 72, hein,
peut-être.
Ça n'en fait que 8 par région. Tout le monde ne sera pas représenté, quoi.
Ah, mais c'est oui. Voilà, c'est certain que... il y a toujours... Je ne sais pas si, au bout du compte, on peut appliquer, quand c'est la proportionnelle, au plus fort reste. Alors, est-ce que le plus fort reste, il est globalisé dans l'Hexagone, ou est-ce qu'il est globalisé seulement au niveau de chacune des régions?
Qu'on regarde les règles du jeu d'ici là.
Parce que la seule chose intéressante, c'est que ce sera enfin un Parlement qui ressemblera à quelque chose d'un peu politique. Alors, c'est-à-dire qu'il y aura un vrai débat, une vraie élection d'un vrai président par le Parlement, avec quand même des pouvoirs accrus. Est-ce que ce pouvoir sera à même de pouvoir résister aux lobbies qui font la loi à Bruxelles depuis très longtemps? Ça, c'est une autre paire de manches.
Voilà, je le avance, je ne le voyais pas si vite, mais on va donc faire une pause musicale. On va quand même dire un mot très bref du GIEC, qui une fois de plus tire la sonnette d'alarme, il est habitué, il fait que ça. Limiter les gaz à effet de serre, arrêter la progression actuelle, sinon ça augmentera la température sur la Terre de beaucoup. Je vous passe tous les détails, on y reviendra forcément. Il y en a même qui ont l'idée de transformer les vaches en dahus en leur mettant un petit sac à CO2 sur le dos. Il y a des solutions plutôt marrantes. Pour cette pause musicale, on va la faire autour d'une évocation du 20 avril, c'est bientôt, 1914, il y a un siècle. Les mineurs de Ludlow aux États-Unis étaient en grève et ont manifesté. Ils ont été massacrés par des policiers de l'État envoyés par Rockefeller. Il y a eu des femmes, des enfants de tués. Et Woody Guthrie a évoqué, dans sa langue, bien sûr, cet événement majeur des luttes sociales aux États-Unis, ce Ludlow massacre.
It was early springtime and the strike was on. They drove us miners out of doors, out from the houses that the company owned. We moved into tents up at old Ludlow. I was worried bad about my children. soldiers guarding the railroad bridge. Every once in a while a bullet would fly, kick up gravel under my feet. We were so afraid you'd kill our children, dug us a cave that's 7 foot deep, carried our young ones and a pregnant woman down inside the cave to sleep. That very night you soldiers waited till all us miners was asleep. You snuck around our little tent town, soaked our tents with your kerosene. You struck a match and the blaze it started. You pulled the triggers of your Gatling guns. I made a run for the children, but a firewall stopped me. 13 children died from your guns. I carried my blanket to a wire fence corner, watched the fire till the blaze died down. I helped some people drag their belongings while your bullets killed us all around. I never will forget the look on the faces of the men and women that awful day when we stood around to preach their funeral and to lay the corpse of the dead away. We told the Colorado governor to phone the president, tell him call off his National Guard. But the National Guard belonged to the governor, so he didn't try so very hard. Our women from Trinidad, they hauled some potatoes up to Wallensburg in a little cart. They sold their potatoes and brought some guns back, and they put a gun in every hand. The state soldiers jumped us in the wire fence corners, did not know that we had these guns. And the redneck miners mowed down them troopers. You should have seen them poor boys run. We took some cement and walled the cave up where you killed these 13 children inside. I said, God bless the Mine Workers Union. Then I hung my head and cried.
Vous dégoûterez donc le Glove Massacre. Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce 14 avril 2014. Il nous reste un petit quart d'heure pour traiter l'actualité nationale qui, elle aussi, est multiple et variée. T'as un sujet, Robert, par lequel tu veux commencer ?
Ah ben, on va commencer par ce qu'il y a de plus actuel, c'est le voyage de Valls à Berlin. Et donc Valls, après Sapin, après Montebourg, est allé rassurer les Allemands, et derrière les Allemands, l'Union européenne, parce que se prépare et va être présenté en France le budget le 23, donc c'est bientôt le 23 avril, budget 2014. Et puis, surtout la proposition qu'aime bien voir Bruxelles dans son opération de contrôle, c'est le pacte de stabilisation. Alors là, il faut qu'il soit prêt le 29 et qu'il soit donc livré après le 20, autour du 29 avril, on est en avril toujours, à Bruxelles, pour que la politique financière française soit contrôlée, vérifiée, tout ça. Bon, c'est la soumission totale, vraiment explicite par ces voyages successifs du nouveau gouvernement. Donc c'est justement à l'opposé de tout ce que, non pas on n'y croyait plus, mais ce qu'on pensait, que dans ce domaine-là, Hollande allait mettre la pédale douce et puis éviter ce côté spectaculaire d'être en règle de conformité avec les règles monétaires et économiques d'austérité de Bruxelles. Voilà, je crois que ça méritait d'être souligné tout de suite. Oui.
Information ou enfumage, parce que de toute façon, ils savent qu'ils ne les tiendront pas, ces règles. Hein, ce n'est pas possible, techniquement. Le but, c'est surtout d'obtenir un nouveau report, ou je ne sais pas quoi, une dérogation. Pour le moment, ils y vont doucement et ils les caressent dans le sens du poil, mais il va bien falloir, à un moment donné, peut-être radicaliser les positions.
La garde vole au secours de Hollande, puisqu'elle a fait cette déclaration complètement surréaliste en disant que pour le FMI, c'est sûr que dans deux ans, le déficit français sera bien à 3% maximum. 3%. Mais alors que ça paraît, et puis de toute façon, c'est un autre aspect de la politique, c'est-à-dire à quoi ça rime 3%, quoi.
Ah ben ça, ils nous l'ont fait voter au moment de Maastricht, hein. J'étais de ceux qui disaient c'est complètement absurde. À l'époque, tout le monde s'en foutait en disant ouais, bon, pourquoi pas, quoi, si ça leur fait plaisir. Mais ça fait partie des choses qu'on nous a fait avaler en douceur, et maintenant on s'appuie dessus comme si c'était des vérités intangibles, quand même. Bon, après, c'est la vie politique.
On va peut-être dire un petit mot avant de parler de l'opposition, et notamment du rassemblement de samedi, de cette drôle d'affaire de chaise musicale entre Désir et Cambadélis, c'est-à-dire que c'est à l'Élysée que se décide maintenant le choix, enfin plutôt l'annonce du nouveau secrétaire national du Parti Socialiste, puisque Harlem Désir entre au gouvernement. Bon, alors là, on voit naturellement l'habileté manœuvrière de Hollande, et il l'a prouvé quand il était à la tête d'un PS ingouvernable à une époque, et là, il montre encore qu'il tient bien les choses et toutes les ficelles, et que ça traîne pas, c'est pas un mot, contrairement à ce que souvent les humoristes veulent nous faire croire. Il décide quelque chose, il le fait, il s'y tient, et puis quand il décide quelque chose d'autre, là aussi, ça va très vite. Ça va très vite. Et donc, voilà, il lui dit, bon, Désir au gouvernement, Cambadélis. Alors les socialistes, on dirait, non, il faut quand même qu'on vote là-dessus. Alors ils ont pensé que les statuts étaient suffisamment flous pour que ce soit le comité national, plusieurs centaines de personnes, qui demain mardi, va ratifier la candidature de Cambadélis au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste.
Mais c'est d'autant plus étonnant que Désir, on pouvait quand même quelque peu lui attribuer l'échec des élections municipales. Et pourquoi récompenser un échec? Pour le consoler, peut-être?
Eh bien, ça fait partie de... Hollande, il sanctionne pas, parce que là, il a bien vu qu'il allait faire qu'il est lui personnellement responsable, mais ça, évidemment, il ne le dira pas, mais que le sanctionner par simplement demander que le Parti Socialiste le vire, bon, il pouvait pas, parce que ça, c'est tout le Parti Socialiste qui devait se mettre en mouvement. Or, Désir avait dit qu'il ne démissionnerait pas. Il l'avait dit plus ou moins plusieurs fois, discrètement, mais il a fait savoir qu'il ne démissionnerait pas. Donc, fallait ou le démissionner, alors là, ça devenait compliqué, ou vaut mieux, effectivement, le sortir du PS en le faisant entrer au gouvernement. Je crois que, de ce point de vue-là, belle manœuvre de Hollande. Si on parle un peu de... Eh ben oui, la gauche de gauche, qui quand même a mis pas mal de monde dans la rue samedi, à Paris. Alors, comme toujours, les statistiques varient. Entre 25 000 selon la police et 100 000 selon les organisateurs. Eh bien, bon, je vois que, pour une fois, l'humanité, les communistes, qui ne se mouillent pas trop sur les chiffres, mais là, ils le mettent à la une, à 100 000. ils acceptent le chef de le chiffre de 200 000. Bon, de toute façon, entre 50 000 et 100 000, c'est quand même un succès. Il y avait une petite manifestation, d'ailleurs, que moi j'ai vue à Marseille, où il y avait, là aussi, ça en fait autour de 5 000 personnes, autour de 5 000 personnes à Marseille, parce que c'était des gens qui disaient, de toute façon, moi j'irai pas à Paris, pour des raisons financières, c'est loin, 1000 km, tout ça. Donc, et puis aussi, de dire, les grandes manifestations au plan à Paris, c'est bien, mais il faut savoir qu'il y a aussi une France du Sud qui a besoin de se relever de l'infamie du Front National, provoquée par le Front National, et que pour ça, ben, le mieux, c'est de faire des manifestations de masse qui rassurent un petit peu le peuple face à cette montée du fascisme déguisé derrière les gens du Front National.
Alors, il n'y avait pas que le Front de Gauche à cette manif, hein, quand même. Il y avait aussi les syndicats, certains membres des Verts, même si le parti en tant que tel n'était pas représenté officiellement. Il y avait beaucoup d'associations. Enfin, c'est vraiment les gens qui s'opposent au libéralisme du PS, quoi. Enfin,
c'est vrai que le slogan « faisons valser l'austérité », bon, c'est évidemment, ça, on dira que c'était facile.
SDB fait école partout. Hein.
Ça fait ces slogans, des fois ça reste longtemps. Je me rappelle, tu te rappelles, Pompidou des sous, ça voulait rien dire, dans le fond, Pompidou des sous, mais c'est resté pendant des années et des années dans les cortèges. Enfin, au moins aussi longtemps que ce pauvre Pompidou a survécu.
Voilà, alors tout ça fera-t-il tomber le pacte d'irresponsabilité? C'est pas sûr, mais ça y contribue et il faut continuer à se battre.
D'ailleurs, on a appris qu'il n'y aura pas de vote au Parlement là-dessus, mais il y aura directement des décrets d'application qui incluront le contenu du pacte. Là encore, c'est une belle manœuvre, hein, parce qu'effectivement, un vote sur le pacte, ça aurait été... Bah, peut-être pas dangereux, parce qu'à nouveau, les députés socialistes n'auraient pas osé voter contre, parce qu'ils auraient dit, mais ça y est, ça, on va tout droit vers la dissolution, et puis adieu vos vaches cochons couvées, quoi, pour certains d'entre eux. Donc c'était compliqué de... Donc il n'y aura peut-être pas de vote au Parlement là-dessus, et donc on va le faire entrer dans les mœurs par la petite porte des lois et des décrets d'application.
Alors les mauvais coups de l'été ou des vacances, c'est pas encore les vacances, mais les mauvais coups tombent. EDF, on nous annonce une augmentation rétroactive, hein, rétroactive sur vos anciennes factures. On va vous ajouter 5% et vous demander de payer tout ça. Et une deuxième augmentation au mois d'août de 5%. Tout ça pour pouvoir moderniser les réacteurs nucléaires qui n'en peuvent plus. Comme si ces coûts d'entretien et de maintenance n'avaient pas dû être programmés depuis le début. Voilà, qu'est-ce que peuvent faire les citoyens face à une EDF qui est privatisée et qui décide de ses prix sans qu'on puisse vraiment... Alors il y a eu une embrouille quand même, c'est-à-dire que Hérault, pressentant les élections municipales, je suppose, avait, et puis d'autres mouvements d'opposition, avaient fait reculer cette augmentation qui aurait dû survenir l'année dernière en leur disant, attendez que les municipales soient passées et puis vous pourrez non seulement la rétro-appliquer depuis, absolument scandaleux, mais tout le monde trouve ça normal. Donc 92% des clients vont se trouver obligés de payer des factures EDF exorbitantes. Tout ça au prétexte que, soi-disant, on a peut-être pas la moins chère d'Europe, mais on est sur 35 pays au 13e rang pour le prix de l'électricité. C'est pas parce qu'elle est encore plus chère et trop chère ailleurs qu'il faut l'augmenter chez nous. Voilà, tu avais social, ben on peut dire, bon, il y a cette fermeture d'une usine de la CETA à Nantes, la CETA qui elle aussi a été privatisée, l'usine appartient à des Anglais qui vont l'emmener en Pologne, 327 personnes sur le carreau, merci la mondialisation, même l'européanisation de l'économie. Il n'y a rien à dire non plus sur une mesure comme ça. Il fut un temps où la CETA était une entreprise d'État et où on aurait peut-être pu dire un mot sur de telles mesures. Fagor Brandt, ça va peut-être s'arranger partiellement ou aux deux tiers, puisqu'une société algérienne pourrait être autorisée à repartir avec 1200 des 18 salariés. La décision doit tomber demain. Les salariés, du moins les 1200, sont plutôt soulagés par cette perspective. Voilà, tu avais d'autres infos sociales ?
Non, sur le social, non. Je voulais simplement, pour peut-être, je vois qu'il va falloir conclure, que les deux campagnes en cours, qui sont à la fois françaises, européennes et même internationales, c'est la campagne TAFTA, c'est-à-dire dénoncer la négociation concernant le grand marché transatlantique qui veut mettre l'Union européenne au niveau des États-Unis. Donc cette campagne se poursuit un peu partout. Elle est activée notamment par ATTAC et puis d'autres. Et puis la deuxième campagne, eh bien, c'est celle qui est autour du non au nucléaire. Et c'est parti effectivement depuis déjà le rappel de Fukushima. Et bientôt, dans quelques jours, le rappel de Tchernobyl. Au-delà, beaucoup de manifestations un peu partout, et notamment dans le sud-est, où il y a beaucoup de nucléaire. Il y aura notamment une marche qui va aller jusque de Cadarache et remonter dans la vallée du Rhône et faire toutes les centrales nucléaires. Mais c'est en cours et c'est pour les toutes prochaines semaines. Et donc, de quoi s'occuper pendant les vacances de Pâques.
Voilà, il est presque 20h, ce journal va se terminer. Je vais quand même vous donner une annonce, cette conférence de Eliane Sandbar, mercredi 16, à la mairie du 6e, salle Victor Hugo, sur les négociations israélo-palestiniennes, 15 jours avant la fin de ce cycle de négociations, donc mercredi soir. Voilà, et puis ce Canu Info, vous pourrez le réécouter sur Internet. Vous pourrez également le retrouver sur le blog de Canu Info. Et nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Ne quittez pas l'antenne, oui, je ne l'ai pas dit, mais on le redira. Vendredi 18, Geoffroy est à tout bout de champ. Bonsoir.